Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages, aujourd'hui, nous emmène en Corse. Nous allons traverser la Méditerranée et en compagnie de mon invité, Michel Verger-Franceschi, professeur d'histoire moderne à l'Université de Savoie ou du Dauphiné, je ne sais pas ce qu'il convient de dire, Savoie ou Dauphiné?
C'était Savoie jusqu'à présent, c'est l'Université de Tours puisque j'ai été muté récemment.
Ah, vous avez été muté, donc c'est plus ni l'un, c'est plus Savoie ni Dauphiné, c'est Tours. Nous allons feuilleter l'histoire de Corse, des origines à nos jours. C'est un très beau travail qui se présente d'ailleurs sous emboîtage cartonné avec des cartes, des illustrations, une très jolie couverture qui représente une carte qui date de 1732, le tout étant publié aux éditions du Félin. Et cet ouvrage va recevoir prochainement le prix Hercule Catenacci, qui est un prix décerné aux ouvrages d'histoire qui sont des ouvrages de luxe. Monsieur Verger-Franceschi, bonjour. Vous avez déjà été lauréat de l'Académie française, je crois.
Bonjour, oui, j'ai eu ce grand honneur d'avoir le prix Feydeau de Brou en 1978 pour mon premier livre qui était préfacé par le regretté duc de Castres, auquel je tiens à rendre hommage ici.
C'était un ouvrage sur Henri le Navigateur.
C'est un ouvrage non encore antérieur. C'était
encore antérieur.
La Royale au temps de l'amiral d'Estaing, qui était mon premier ouvrage d'histoire maritime.
Il faut dire qu'Henri le Navigateur me fait rêver. Il semble que c'était une personnalité très attachante. Il faut dire aussi que vous êtes, vous, spécialiste de l'histoire maritime, puisque vous dirigez le laboratoire d'histoire maritime du CNRS. Voilà. Tout ça explique peut-être que vous êtes attaché à la Corse, mais ce qu'il explique surtout, c'est que vous-même, vous êtes évidemment d'origine corse, et j'ai compris que vous remontiez vos aïeux jusqu'à 1400.
Oui, le plus ancien connu, c'est 1397.
1397. Donc vous écrivez aussi, et au fil des pages, on trouve des indications sur vos ancêtres, votre famille. Parlez-nous un peu de la famille en Corse, justement. Est-ce qu'elle est comme on le croit?
La famille est quelque chose de très important. Elle est peut-être plus divisée qu'on ne le croit. On parle beaucoup de clans, mais on s'aperçoit qu'à travers les âges, dans les mêmes familles, on avait assez souvent une partie de la famille qui était inféodée à Gênes, les autres inféodés à la France, ou bien les uns proches de l'Angleterre, les autres proches de la France. Et on peut se demander à la limite si ça n'était pas un choix familial de façon à de ne pas être totalement perdant en cas de victoire d'un parti par rapport à l'autre.
Voilà, une question d'équilibre sage.
Voilà.
Donc, Michel Verger-Franceschi, dans votre Histoire de Corse, donc deux tomes, le tome 1 et en tout cas une très belle préface d'Emmanuel Leroy-Ladurie, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ce qui fait une raison de plus de parler de votre livre, outre le prix Hercule Catenacci que vous allez recevoir. J'ai trouvé que votre ouvrage ne raconte pas seulement l'histoire événementielle, mais on a l'impression de lire une biographie d'une dame, au fond, qui s'appelle Madame la Corse. Et d'ailleurs, je crois que la légende, c'était une femme, la Corsa ou Corsica.
Corsica,
voilà.
Oui.
Et on a l'impression que vous tracez sa psychologie. Vous vous êtes attaché à ça particulièrement?
Oui, beaucoup, parce que c'est vrai que dans les médias, un petit peu à l'heure actuelle, on a toujours un peu l'impression que l'on fait quelque part le procès de la Corse en montrant plutôt ce qui ne va pas. Et donc, j'ai essayé un petit peu dans cet ouvrage volumineux, en effet, de montrer ce qu'était vraiment la Corse, la réalité de la Corse, de façon à la montrer sous un jour. Vous avez parlé de psychologie, d'une biographie, et c'est vrai, pour la montrer un petit peu telle qu'elle est.
Telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle est, ça va rectifier un certain nombre de nos idées, par exemple l'idée toute faite que nous avons, mais qui n'est sans doute pas toute faite, qui est sans doute héritière d'un certain nombre d'historiens, l'idée que nous avons que les Corses, au fond, ce sont des bergers,
voilà.
Alors que vous démontrez que ce sont avant tout des marins.
Oui, on essaye toujours de montrer que l'île est simplement une montagne dans la mer. Donc, ça n'est pas tout à fait faux. C'est vrai que c'est une montagne. C'est vrai qu'il y a une économie agro-pastorale pendant des siècles. Mais on oublie aussi de dire que c'est une île. Et d'ailleurs, tous les ouvrages anciens qui étaient consacrés à la Corse s'appelaient toujours « Histoire de l'île de Corse » et pratiquement jamais « Histoire de la Corse ». Et c'est un petit peu comme Renouvin lorsqu'il parlait de l'Angleterre. Il disait toujours il ne faut pas oublier donc que l'Angleterre est une île. Et en tant qu'île, c'est donc une zone d'échange permanent et il suffit de visiter la Corse pour s'apercevoir que dans les plus petites chapelles, dans les plus petites églises, on a des retables, on a des peintures, on a des marbres qui viennent d'Italie, qui viennent de l'ensemble du bassin méditerranéen. Et donc j'ai essayé de prendre un petit peu le contre-pied de cette idée où on essaye de nous dire régulièrement que la Corse est un monde fermé. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout un monde fermé. Au contraire, c'est un monde qui a été au contact des Pisans, des Génois, des Français, des Anglais, dans l'Antiquité, des Romains, des Carthaginois, des Étrusques. Et c'est donc un monde qui est perpétuellement ouvert, avec une opposition qui est certaine toutefois. C'est que ne sortez de l'île que les hommes. Et les hommes sont souvent ou des marins ou des hommes non marins, comme Sampiero Corso, par exemple, ou Napoléon Bonaparte et Pascal Paoli entre les deux. Mais ces hommes sortaient de leur île. C'est quand même assez extraordinaire de voir un personnage comme Sampiero Corso, par exemple, au XVIe siècle, qui sort de la campagne. Bastelica, quand on y va aujourd'hui, c'est un tout petit village à une quarantaine, une cinquantaine de kilomètres d'Ajaccio. Eh bien, ce garçon, à 13-14 ans, part à Florence, part à Rome, devient ensuite colonel au service d'Henri II. On a à peu près la même chose avec Pascal Paoli, qui est petit-fils de meunier et qui meurt en Angleterre, qui a fait deux très longs séjours à Londres et qui a vécu finalement en Angleterre 34 ans, c'est-à-dire aussi longtemps qu'en Corse. Et donc, les hommes sortent et rentrent. Et ceux des personnages qui perpétuent la tradition, l'importance de la famille, ce sont finalement les femmes. Parce que les femmes, elles, ne sortent pas. Mmh. Et c'est vrai que la femme corse, à travers toutes les générations de l'Antiquité et surtout depuis le Moyen-Âge jusqu'en gros à la guerre de 1914, la femme corse, elle a pour tout horizon l'église de son village. Elle voit son clocher où elle a été baptisée, où elle s'est mariée et où elle meurt. Et c'est assez intéressant de voir que quelqu'un comme Mérimée, finalement, lorsqu'il parle de Colomba, c'est assez intéressant de voir que c'est la femme qui transmet la tradition et il y a une sorte un petit peu d'opposition, si je puis dire, entre les deux sexes en Corse, qui est peut-être plus grande que dans les autres régions françaises ou dans les autres pays.
Oui, c'est tout à fait particulier. Donc, les Corses marins, et l'île a-t-elle été extrêmement convoitée au fil des siècles ?
L'île a été un enjeu géostratégique pendant pratiquement 2500 ans.
Mais peut-on dire que la Corse s'est finalement soumise à quelqu'un ?
Jamais.
Jamais.
La Corse ne s'est absolument jamais soumise. Elle s'est toujours rebellée contre toute autorité. Et si j'ai mis ce sous-titre qui est un petit peu provocateur, donc l'île, le pays de la grandeur, c'est parce que la Corse s'est toujours considérée comme le partenaire potentiel d'une très grande puissance, ce qui a fait grincer évidemment beaucoup de dents. Vis-à-vis des Génois, elle se considérait du temps de Pascal Paoli comme au XVIe siècle, comme un royaume, c'est d'ailleurs le nom qu'elle porte, le Regno di Corsica, donc le règne de Corse, le royaume de Corse, et Pascal Paoli lui-même se considère comme un véritable chef d'État, au point de faire grincer des dents quelqu'un comme Choiseul. Choiseul lui dit, mais enfin, vous êtes le chef d'État rebelle, en plus, d'un pays qui fait 116 000 habitants. La France est une puissance qui est la première ou la deuxième puissance du monde avec environ 20-25 millions d'habitants du temps de Choiseul. Et c'est vrai que Paoli se met sur un pied de quasi-égalité avec Choiseul. Et il procède ensuite exactement de la même façon avec Georges III d'Angleterre, donc au moment du royaume anglo-corse de 1794-1796. On a l'impression toujours que la Corse discute d'égal à égal avec son partenaire.
Voilà, donc elle se choisit des partenaires. Vous dites même que la Corse ne s'est jamais soumise à personne parce que chez elle, c'est une impossibilité congénitale. Donc, pas de soumission, mais elle s'est donnée à Gênes au XIVe siècle et après, elle a changé de maître, si on peut dire, ou de partenaire en fonction des puissances, tour à tour, la France, les pontifes aussi, le Vatican.
Tout à fait. La Corse a cette particularité en Méditerranée de toujours regarder vers la plus grande puissance du moment. Et donc, elle a été génoise de 1388 à 1768 ou 1789. Donc, la date est discutée et on peut effectivement discuter de l'annexion, entre guillemets, de la Corse à la France en 1768 ou en 1789. Et donc, la plus grande puissance de Méditerranée était Gênes à ce moment-là, qui était la grande rivale de Pise ou ensuite de Venise. Et donc, la Corse se donne à Gênes, en gros, en 1380. Pour trois bons siècles. Ensuite, lorsque la France et l'Angleterre rivalisent en Méditerranée au XVIIIe siècle, les deux puissances, la France et l'Angleterre, veulent des îles, tout simplement parce qu'on est au temps de la marine à voile. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je me suis intéressé évidemment à la Corse en dehors d'origine familiale. C'est qu'on oublie que du temps de la voile, ce qui est important, ce sont les escales. Et donc, toutes les îles sont regardées comme des enjeux, que ce soit Minorque, que ce soit donc les Baléares, que ce soit la Crète, que ce soit la Corse. Parce qu'une île est, pour une flotte génoise, française ou anglaise, le moyen de faire des chairs, comme on le disait donc au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'avoir du gibier, des sangliers, des merles, des pâtés, ce qui est le cas en Corse. Et également, on recherchait des aiguillades, c'est-à-dire des sources d'eau pure et d'eau fraîche. Et donc la Corse répondait à ces besoins des marines à voile, en particulier des marines de galère.
Avec Michel Franceschi, Verger Franceschi, nous évoquons donc son Histoire de Corse, parue aux éditions du Félin. Nous n'avons pas encore tout raconté. Nous allons nous donner un rendez-vous pour une prochaine fois. Et nous aborderons donc l'histoire de la Corse par le début, parce que c'est une histoire tout de même très ancienne. Là, on a fait des petits sauts déjà dans le temps. On va y revenir. Je vous donne donc rendez-vous. À très bientôt.